vos courriers. Vous pouvez écrire à cette adresse également. Vous pourrez réagir à l'émission au 04 91 08 28 10. Également, vous pourrez également écrire par adresse email. Donc, c'est la-courte-échelle@riseup.net. Voilà, ce soir, il y a Liane.
Hello.
Hello. Il y a Charlie.
Salut.
Il y a Abel.
Salut.
Et il y a Vivi. Et
salut.
Voilà, donc ce soir, on va lire un courrier. C'est ça, l'équipe ?
Yes.
Ouais, c'est ça. On va commencer l'émission avec la lecture d'une lettre d'un prisonnier italien, Claudio, qui fait partie d'un syndicat dont vous avez parlé la semaine dernière. Non,
on a parlé il y a quelques émissions.
Ah ouais.
Je pense qu'il y a 3 semaines. Je vous dis ça dans un instant.
Il y a quelques temps, quelques émissions derrière.
Je suis pas à la page.
Je pense à 2-3 semaines. Je pense.
Ok, 2-3 semaines. Alors.
Je pense.
Ok. Eh ben, on peut commencer avec la lecture de la lettre. Du coup, il est en prison en Italie, mais sa lettre résonne très fort avec ce qui se passe aussi en France. Et vas-y.
Oui, non, j'allais dire, il fait partie des personnes qui ont lancé l'initiative d'un syndicat de prisonniers en Italie, et c'est de ça que va parler la lettre. Et ouais, on en a pas mal parlé dans une émission précédente, ce genre de créer des dynamiques collectives à la fois autour des questions de travail en prison, de défendre les droits des prisonniers qui travaillent, et à la fois un peu sur des questions un peu fondamentales de droits, par exemple contre le 41 bis, par exemple.
Exactement. Et du coup, sa lettre commence avec « Mise à jour concernant le syndicat des détenus ». Tout d'abord, nous saluons toutes et tous les camarades qui, depuis la France, se sont intéressés au SINDEF. J'aimerais commencer par expliquer qu'on a choisi le nom de syndicat car il rappelle le sens d'union entre les personnes qui vivent les mêmes conditions difficiles et qui veulent y faire face à travers les luttes et des moyens pour s'y opposer. On aurait pu s'appeler association, on aurait pu s'appeler groupe collectif. Probablement en changeant la forme, la perception aurait changé aussi, mais pas le contenu de ce qu'avec le temps, on voudrait essayer de faire. Ce syndicat naît avec un objectif précis, être un outil de lutte contre le système pénitentiaire en s'ajoutant à ceux qui existent déjà. Chaque moyen de lutte, de contestation contre une institution qui était, est et sera toujours parmi les pires institutions du monde, au monde, doit être poursuivi avec toutes ses difficultés. Évidemment, comme tous les moyens de lutte, il faut non seulement se heurter à l'institution, mais souvent, on se retrouve aussi à devoir faire face aux dynamiques internes entre nous, les détenus, ou pour mieux dire, les personnes emprisonnées. En ce moment, nous sommes encore au début. Ce que nous pouvons vous dire est que dans nos priorités, il y a la lutte contre la prison à vie dans toutes ses formes, contre le 41 bis et contre le système carcéral. Ce que nous demandons est comment mener et structurer ces luttes sans rentrer dans ces dynamiques, des véritables dynamiques de syndicats dont on voudrait s'éloigner. Là, il est logique de donner quelques explications en plus. La lutte contre la prison à vie et le 41 bis est en effet la plus compliquée à structurer à l'intérieur des prisons d'aujourd'hui. C'est différent de pouvoir le faire aussi à travers un canal de communication solide à l'extérieur. Il est évident que les prisons ont changé au fil des années, avec elles, ceux qui y vivent, c'est-à-dire les prisonniers. Les manifestations, les luttes et l'atmosphère de contestation qui, à la fin des années 60, avaient envahi des pays entiers, le bien connu mai français qui donne comme une étincelle, a éclairé l'Europe, est désormais bien loin, mais pas totalement éteint. Au contraire, aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons comment la contestation est forte. Les années de lutte ont amené dans les prisons italiennes toute la colère populaire que les jeunes vivaient à l'extérieur. Très tôt, un lien très fort s'est créé entre les groupes de dissidents à l'extérieur, prolétaires et étudiants en premier, et les prisonniers. Un lien qui a donné lieu à des périodes de lutte plus ou moins violentes. On ne peut pas nier que ces moments ont abouti à la création d'une véritable conscience et critique du système dans les prisons. Juste ou pas, mais elle y était. Aujourd'hui, tout a changé. Les conditions de travail ont changé et avec elles les dynamiques de lutte. Les dynamiques sociales ont changé aussi. Le premier obstacle qu'on voit est justement dans la relation et dans la discussion à l'intérieur. Les prisons sont d'après nous le miroir de la société qui les entoure. Une société de plus en plus individualiste, égoïste, capitaliste, raciste, hédoniste, patriarcale et machiste. Aujourd'hui domine le modèle social qui impose d'avoir et non pas d'être, où chacun, chacune de nous est observé et jugé selon ce qu'elle a fait, selon qui elle représente ou et pas pour ce qu'elle est en réalité. Ce modèle transmis aussi aux nouvelles recrues qui rentrent et remplissent les prisons à cause de lois de plus en plus restrictives et oppressives a fait que le premier mur qu'il faut surmonter est exactement celui de ces nouvelles idéologies. Quels sont les changements que nous avons vus dans le système pénitentiaire et comment il a évolué dans le temps ? Donc, premièrement, tu veux...
Ouais, tu... quand tu veux.
Vas-y, vas-y.
Vas-y, je prends un petit peu et après on...
Grave.
Quels sont les... Donc, je reprends la même phrase. Quels sont les changements que nous avons vus dans le système pénitentiaire et comment il a évolué dans le temps ? Architecture carcérale. À partir de 1800, début du système pénitentiaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, jusqu'à la fin des années 80, les prisons étaient pour la plupart construites dans le centre-ville. Ce choix avait surtout pour but de servir d'avertissement pour les citoyens, citoyennes et toutes celles et ceux qui ne voulaient pas se soumettre au pouvoir. Tout le monde connaît l'architecture du panopticon, où tout est visible, théorisé par Jeremy Bentham, et ensuite mise en place pendant longtemps, avec le seul but de contrôler le coupable et le pousser vers l'autodiscipline. Sans rentrer dans le fond, on se limite à dire qu'aujourd'hui, les dynamiques ont changé, concernant le contexte des prisons italiennes. Les années 70, 80 et 90 ont été emblématiques des révoltes en prison. Les images des draps en feu et le bruit des frappes sur les barreaux résonnaient dans les salons des maisons autour des prisons, en provoquant du moins de la curiosité et des questions. L'institution, qui n'est pas dupe, mais au contraire apprend de ses erreurs, a bien pensé de commencer à construire des nouvelles prisons en dehors des centres-villes, dans des endroits assez isolés. Ainsi, on s'est éloigné des mille questions et curiosités que partageaient les résidentes et la société autour, en laissant les prisonniers et prisonnières dans des zones d'ombre où chaque forme de contestation restait isolée. Les structures à panopticon sont devenues vieilles avec l'entrée en vigueur des systèmes de vidéosurveillance. Les nouvelles structures, de mieux en mieux organisées avec douches dans la cellule, terrain de foot ou de tennis, des espaces communs où passer le temps et faire de la socialisation, les ateliers pour les loisirs, etc. etc. En vrai, je sais pas si c'est si évident que ça, donc plus pour le définir, le panopticon, c'est un modèle où toutes les chambres, enfin toutes les pièces sont visibles depuis un espace central, c'est-à-dire il y a une personne au milieu qui peut voir tout ce qui est autour, enfin toutes les cellules, et du coup toutes les cellules peuvent se dire qu'elles sont peut-être observées. C'est un modèle de prison théorique imaginé par un intellectuel. Et en vrai, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est que les caméras, c'est un peu la prolongation de ça. Avec toujours la potentialité de pouvoir être observé, tu sais pas si quelqu'un t'observe ou pas, donc tu es toujours sous pression. Voilà, c'était pour eux. Je sais pas si c'était évident pour tous nos auditeurs, ce que c'est un panoptique. Du coup, voilà. Tout cela a été étouffé de plus en plus les revendications des détenus, qui, à cause de la distraction de cette condition confortable, ont oublié petit à petit l'endroit où ils se trouvent. Il faut dire qu'il y a encore aujourd'hui des prisons où il n'y a pas de lieu de ce type et qu'elles servent de mise en garde pour tous et toutes, pour toutes et tous les détenus. Si tu te portes mal, tu vas être transféré là-bas et tu vas perdre tous tes bénéfices. Il peut paraître étrange, mais ça aussi a pour conséquence une forme de discipline inconsciente des prisonniers et prisonnières. Les difficultés auxquelles on a fait face dans la relation avec nos camarades de détention. Ce qui depuis toujours nous a fait réfléchir est le sentiment d'abandon et d'acceptation qui partagent beaucoup d'entre nous. Dans la relation avec nos camarades, les phrases les plus fréquentes quand on parle de prison et d'institutions carcérales sont « il faut payer »,« on a besoin de prison », où on met les criminels. On a fait des erreurs et maintenant on doit purger notre peine, la tête haute, etc. etc. Presque la plupart des prisonniers prisonnières ne développent pas une critique du système. La première difficulté est donc liée au fait de devoir aller à contre-courant et contre les croyances même de la société dans laquelle on est. Lorsqu'on veut affirmer avec force qu'il faut fermer les prisons, il faut comprendre comment expliquer le pourquoi de cette pensée à nos interlocuteurs et en même temps comprendre quelle est la force qui s'oppose et contre laquelle on se heurte. C'est-à-dire, pourquoi plusieurs d'entre nous pensent le contraire et comprendre comment leur faire face. Tant qu'on n'aura pas compris cela, on continuera à parler des langues différentes sans réussir à se faire comprendre. Cela n'empêche qu'on va continuer à dire qu'il faut fermer les prisons et que le système carcéral est une horreur, ça c'est sûr. De plus, il ne faut pas sous-estimer la mentalité carcérale et le contexte auquel elle appartient. Ce n'est pas facile de dénoncer des violences ou des tortures pour un ou une prisonnière. La culture de la prison impose des règles bien définies et la personne qui les transgresse sait bien les conséquences qui l'attendent. Même un tabassage de la part des matons-matones, s'il est dénoncé, peut amener le prisonnier à être vu comme une balance, une définition stigmatisante que personne ne voudrait porter ni en prison ni dans la vie. Ce que beaucoup ne comprennent pas est que la force de ceux qui nous emprisonnent se base, se construit et s'est renforcée depuis toujours par le code du silence des prisonniers-prisonnières. Où les prisonnières étaient et sont encore aujourd'hui tabassées, dans certains cas, par plusieurs matons-matones, tout en ayant conscience que, presque jamais, ils vont se décider à dénoncer. Heureusement, pendant les années, ce mur a été brisé. On commence enfin à comprendre que les balances, pour utiliser le jargon de la prison, sont ceux qui tabassent en groupe les prisonniers et prisonnières sans aucune raison. Cela n'a rien à voir avec l'omerta et le sens de l'honneur qui accompagne beaucoup d'entre nous. Comme dit plus haut.
Ah oui, merci. Comme dit plus haut, la prison devient le miroir de la société. Et comme pour la société à l'extérieur, dans les prisons aussi, la culture individualiste et égoïste s'est propagée partout. L'égoïsme individuel a remplacé dans plusieurs cas la solidarité carcérale, qui est bien connue. Et cela du fait que les conditions de pauvreté sont de plus en plus extrêmes dans ces lieux. Il ne faut pas oublier les privilèges qui ont été introduits par la loi Gozzini, et comme cela ont rendu lâches les prisonniers-prisonnières, leur offrant le prétexte de se défiler de toute situation inconfortable. Pourquoi le syndicat ? Ayant clair, comme si cela était un axiome, que le syndicat est seulement un moyen de plus pour lutter, nous avons dû nous poser des questions sur comment s'en servir ou comment transformer ce groupe de personnes, au début que trois, en quelque chose de dérangeant pour le système. Nous nous sommes demandé comment pouvoir défendre des potentiels camarades soumis à l'emprisonnement à vie face à des tribunaux extraterritoriaux, comment pouvoir mener des batailles collectives contre le 41 bis ou contre les conditions inhumaines des prisons. Et la première chose qui est sortie de nos réflexions est le besoin de se faire reconnaître, pas en tant que syndicat confédéré ou unitaire, chose à laquelle sincèrement on n'aspire pas, mais comme une entité, un sujet reconnu qui peut protéger les intérêts des prisonniers, prisonnières, un peu comme toutes les associations qu'on connaît déjà. Depuis l'intérieur d'une prison, la chose est très compliquée. Alors le chemin qu'on a initialement décidé d'emprunter est celui du secteur du travail. Depuis des années, le prisonnier, la prisonnière, constitue une force de travail à faible coût, dans certains cas à coût zéro sur lequel compter. Dans plusieurs pays, il n'y a pas de rétribution pour celles qui travaillent en prison et l'exploitation devient une pratique courante du système. En Italie, les différents jugements ont plusieurs fois posé un cadre discipliné aux conditions des prisonniers, prisonnières, travailleurs, travailleuses, mais nous sommes encore en eau profonde. Commençons par démanteler un mythe. Bien que plusieurs d'entre nous soient contraires à la politique du travail salarié comme forme d'exploitation, cela en rapport aux anciennes théories marxistes selon lesquelles le travail salarié est un vol, il faut dire cependant que les conditions des prisonniers et prisonnières doivent être considérées en dehors de ces théories. Différemment de ce qui se passe pour ceux qui vivent à l'extérieur, nous, prisonniers, on n'a pas la possibilité de choisir ou de chercher des meilleures conditions ailleurs. Celles qui vivent en liberté savent très bien que là où la propre condition n'est pas satisfaisante, il peut quand même essayer d'autres formes de subsistance. Travail salarié, travail artisanal, agricole, auto-entrepreneuriat ou travail collectif, etc. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, on trouve toujours une manière d'arriver à la fin du mois, même avec 1000 galères. Le prisonnier, prisonnière, ne peut pas faire ça. Nous, les prisonniers prisonnières, comme je disais, on n'a pas beaucoup de choix. Et au-delà du soutien très fort qu'on reçoit depuis l'extérieur, on s'en sort comme on peut avec les travaux qui nous passent, que nous passe l'administration et qui nous permettent non seulement de manger, mais aussi de penser au maintien des proches qui sont dehors, d'aider des camarades en difficulté et de mettre quelque chose de côté pour des petites dépenses. Par exemple pour des soins médicaux, dentistes ou pour le retour en liberté tant attendu. Tu veux prendre la suite ?
Yes. Contribuer aux luttes pour le travail, donc, non seulement représente une attaque à l'économie du système, pensez aux milliers de recours de travail qui chaque année sont faits et gagnés, et aux pertes économiques qui en découlent, même si petites. Petites si comparées aux 3,5 milliards d'euros que chaque année sont faits et gagnés et chaque année le secteur prison produit. De toute manière, il y a aussi l'idée de fond que le prisonnier doit arrêter de représenter simplement une source de revenus pour le système et devenir dans les faits une dépense plus qu'autre chose. Devenir un syndicat va nous permettre aussi la possibilité de fouiller dans les appels d'offres en démasquant les magouilles. De plus, les centaines de procès devant le tribunal du travail nous donneront une reconnaissance qui, nous intéresse, qui ne nous intéresse pas, mais qui va nous permettre de faire face à des luttes bien plus dures comme celle contre la prison à vie. Notre préoccupation restera de toute façon toujours la même, c'est-à-dire comment ne pas glisser dans des vieilles dynamiques de vieilles dynamiques qui sont de manière passive, qui sont communes à plusieurs syndicats fédérés qui sont pour la plupart au service du pouvoir et qui oublient celles qui au contraire sont obligés de subir de manière passive les influences. Pardon, désolé. Les ambitions pour le futur sont sans doute liées à notre condition de personne libre. Personnellement, cela est mon avis, je serais heureux de mener ces luttes dans la rue, de lutter contre la prison, contre le 41 bis, contre la prison à perpétuité et contre toute forme de torture que les systèmes mettent en acte, en amenant ces luttes dans un terrain qui s'adapte plus à ma façon d'être, en amenant la confrontation dans la rue. À l'heure actuelle, cependant, la condition de personne emprisonnée me met dans une position pas facile qui, j'espère, va terminer très bientôt. Ils peuvent même améliorer les prisons et les rendre accueillantes. Ils peuvent nous donner des terrains de tennis, de foot, de paddle. Ils peuvent nous construire des salles d'entraînement, des douches, des dans les chambres, des lieux pour l'affectivité, améliorer la bouffe, les activités, et nous rendre dociles et nous soumettre à travers la carotte. Ce qu'il faut rappeler cependant est que, de chaque côté d'où l'on la regarde, la prison reste toujours une prison. Le bonjour à toutes les copaines. Lucha y resistencia, Claudio.
Merci à lui pour cette lettre grave chambée.
Qui est pleine de trucs.
Ouais.
Je sais pas sur quoi.
En tout cas, on repart quand même. C'est toujours pareil. Hein, c'est les matons qui prennent le dessus, qui font la loi, la violence, machin. Donc, vivement que ça s'arrête et qu'on les dénonce. Mais c'est bien parce qu'ils ont monté un syndicat. Donc, c'est déjà bien. On devrait faire pareil en France.
Pour préciser, on le dit souvent, mais on peut le répéter, le 41 bis dont il parle à plusieurs reprises, c'est un régime d'isolement carcéral très très strict en Italie. L'équivalent des nouveaux QHS qu'on vient d'avoir là, nos QLCO, plein de mots. Donc QHS, quartier de haute sécurité en France qui existait avant, qui ont été supprimés par Barre d'Inter en 82. Les QLCO, quartier de lutte contre les crimes organisés qui viennent d'être réintroduit par Darmanin, qui s'est inspiré de ce qui se passe en Italie avec le 41 bis, donc un format d'enfermement très 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 strict, d'isolement notamment. Enfin, l'idée c'est un peu la même chose que dit Darmanin, c'est d'isoler les prisonniers qui puissent plus commanditer depuis l'intérieur. Donc ça cible en particulier les détenus de la mafia. En tout cas, c'est vendu comme ça, mais dans les faits, on peut aussi retrouver, il y avait eu Alfredo Costo qui a été un anarchiste qui avait fait des actions contre le capital. et je pense aussi qu'il me semble qu'il y a aussi des personnes des Brigades Rouges dedans, par exemple, enfin il y a longtemps. Du coup, c'est voilà un régime de carcéral très strict contre lequel une lutte existe en Italie et notamment parlée par le SINDEF. Du coup, le SINDEF, le syndicat de ce prisonnier dont on lit la lettre, on en a parlé il y a quelques émissions, c'était le 21 septembre 2025, donc il y a 4 semaines. N'hésitez pas à aller écouter cette émission en podcast si jamais vous êtes à l'extérieur. Mais là, c'est un syndicat qui se bat pour les droits des travailleurs et pour les conditions des prisonniers, comme la lettre l'explique assez bien.
Et ouais, peut-être si vous avez envie de plus en entendre sur le 41 bis, le 26 février 2023, on avait fait une émission avec une copine qui nous avait parlé de la situation d'Alfredo Cospito à ce moment-là, qui était en grève de la faim contre ce régime d'isolement. Elle est disponible sur le podcast, les podcasts de Radio Galère.
Du coup, oui, bah, après, dans la lettre, bon, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et peut-être un jour, si on a envie, on pourra la relire et en reparler encore. Mais là, par exemple, il parle de l'évolution historique des prisons qui étaient avant en centre-ville et qui maintenant sont à l'extérieur. Bah, c'est intéressant de voir que bon, c'est exactement la même dynamique, la même dynamique en France, qu'il y a vraiment une volonté d'isoler au maximum les personnes et quitte à sacrifier ce côté-là dont il parle d'exemple, plutôt invisibilisé pour pas qu'il puisse y avoir de lutte intérieure-extérieure et que c'est suite à des luttes que les prisons ont été éloignées des centres-villes et que par exemple quand il y a des liens extérieurs, enfin, j'ai l'impression que le pouvoir a vraiment peur dès que ces liens intérieurs-extérieurs se créent, par exemple, comme on a vu l'année dernière avec des DPF, où c'est vraiment des personnes de l'extérieur qui ont décidé de se mobiliser contre la suppression des activités en prison et contre les nouveaux QHS, les quartiers de sécurité qui venaient d'être instaurés. Il y a eu plusieurs actions menées par des personnes et l'État a très très vite paniqué, a très très vite utilisé l'appellation terroriste et a mis énormément de moyens pour réprimer ça parce que ça les fait vraiment flipper. Du coup aussi dans ce texte, j'ai l'impression qu'il parle aussi des activités, du fait que les activités en prison c'est aussi un moyen de rendre les choses acceptables et que c'est difficile c'est un enjeu de réussir à avoir des positions anticarcérales un peu radicales dans ce contexte là. En vrai, j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu pour répondre à cette partie-là de la lettre, en France, récemment, enfin, les activités, c'est un peu la merde en vrai. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Et c'était justement une des revendications du mouvement des DPF l'année dernière et de pas mal de détenus de s'énerver du fait que Darmanin décidait qu'on allait faire des prisons plus strictes.
Ouais, on a vu qu'à cause de Darmanin, il y a plein d'activités qui ont été supprimées dans plein de prisons et l'impact que ça a du coup sur la santé mentale des prisonniers. Et aussi que les activités, j'ai l'impression que c'est un outil de répression qui est utilisé par l'administration pénitentiaire et par les matons pour aussi refuser ça ou alors l'accorder seulement à certains prisonniers ou certaines prisonnières en vue d'avoir la paix sociale. Et en fait, malheureusement, ça fonctionne.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans la lettre, qu'il y a différents types de prisons, et des prisons avec des activités, des prisons sans, et que ça permet de, c'est un peu comme le mitard, enfin de mettre de l'enfermement dans l'enfermement, genre au sein de la prison, des régimes plus carcérales, pour continuer la logique de punition, pour permettre d'avoir ce truc de maintien de l'ordre, même à l'intérieur. En vrai, du coup, j'ai l'impression que les deux sont vrais. Ce que dit la lettre et ce que nous on dit, ça s'accorde que l'important c'est de lutter contre la prison dans son principe et c'est ce que cette lettre défend. Et que s'il y a des personnes qui vont créer une dynamique de lutte comme des DPF l'année dernière, sur base notamment de la suppression des activités, c'est toujours bon à prendre. Mais que comme dit la lettre, faut pas perdre de vue que la perspective c'est de dénoncer de l'enfermement et pas de le rendre acceptable. Voilà. Et du coup, je trouve que c'était intéressant de revenir sur ça. En vrai, c'est carré. beaucoup de références dans ce texte.
Grave. D'ailleurs, Vivi, ça dit quoi les activités au Baumettes, là, dernièrement ?
Eh ?
Ça dit quoi les activités au Baumettes, dernièrement ?
Alors, au Baumettes, il n'y a pas grand-chose, hein, à part oxy-étage, la couture. Mais les places sont chères, donc... quand on dit les priorités, c'est aux indigents, c'est plutôt la priorité à la tête du client. Donc voilà quoi, parce qu'il y en a qui ont quand même des virements, qui ont du monde derrière, il y en a qui n'ont rien, qui vivent avec 30 euros par mois. Les priorités ne sont pas spécialement, moi j'ai pas vu que ça soit que spécialement les indigents.
Okay.
Donc les places sont chères, mais les pistolets aussi sont chers.
Et ouais.
Donc voilà, c'est à la tête du client. Et mais si on ne plaît pas aux surveillants, voilà quoi. Si on ne va pas dans leur sens, évidemment, on ne va pas être pris quoi. Donc, mais les places sont chères, ils vont diminuer. Et de toute façon, on est payé à la fronde. Comme vous êtes payé 300 euros et vous en mettez 200 à la cabine.
Grave.
Rien que la cabine, et voilà ouais. quoi. C'est une dépense inouïe. Donc, et on verra si Sarkozy passe par la cabine ou par le portable. Le 21.
Le 21.
On verra s'il appelle Carla à la cabine ou au portable. On va essayer de suivre. Hein.
Ouais, peut-être qu'on ne saura pas s'il passe par le portable.
Hein?
S'il passe par le portable, peut-être qu'on ne le saura pas.
Ah ben, normalement, le matin, il devrait le voir. Il ne doit pas être si malin que ça pour cacher, lui. Voilà, quoi. Comme on dit, la loi de la prison, quoi. Mais t'as mieux qu'il y ait des... que ça se sache et que ça... Voilà, quoi. Parce qu'on est payé 200, 300, 400. Voilà, quoi. Même pas le SMIC, quoi. Hein. Donc...
Ah ouais, ouais, loin du SMIC.
Et il déclare, hein. Et ça, il déclare. Ouais. Donc, ça veut dire quand même à la sortie, il y a des surprises, surprises. Vous allez vous inscrire à France Travail. Hop, t'as travaillé au Beaumont ou en prison. C'est déclaré. Mmh. C'est quand même honteux parce que t'as pas le droit à l'arrêt de travail.
Oui, il n'y a aucun droit de travail.
Ça, on s'en fout. Si t'as un accident de travail, c'est pas pris en charge, on s'en fout. Donc, la loi du travail, en fait, on s'en fout dedans.
Mmh.
La loi du travail, c'est eux. Et si tu veux le faire, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas, on s'en fout. Mais d'où l'hygiène est lamentable dans les coursives, dans les... voilà quoi. Mais peut-être que si on le faisait faire au matos, ça serait plus intéressant peut-être. Voilà. Mais c'est toujours les détenus qui ramassent la merde, en parlant poliment.
Mais voilà. Oui, sur le travail, je trouve que c'est... enfin... c'est intéressant ce qu'il dit, que c'est un bon moyen au quotidien de créer la pratique, de se fédérer, de mener des luttes, parce qu'il y a plein de revendications locales à avoir. De, genre, c'est un bon moyen de commencer à faire collectif, même si, je me répète un peu, mais leur objectif, c'est pas d'avoir des conditions de travail acceptables en prison. Leur
mais
objectif, c'est qu'il n'y ait plus de prison. Et
mais les conditions.
Mais que la dynamique de lutte... elle peut se construire autour enfin, c'est pas des prétextes, parce que c'est des vrais trucs de les acquérir, c'est quand même super bien d'augmenter un peu ses conditions. Mais genre, se battre pour des petites améliorations, c'est pas forcément incompatible avec le fait de se battre aussi contre la prison comme concept, si c'est ça qu'on garde comme perspective. Oui. C'est possible d'allier les deux, parce que ça crée le collectif, et une fois que le collectif est puissant, il peut aller plus loin. Et c'est clairement ce qu'il dit, quoi. C'est vraiment dans le... mais c'est cool que ils arrivent à garder comme discours et en tête que leur objectif à terme c'est de lutter contre la situation carcérale, quoi.
Voilà. Ouais. Comme on dit, les bâtons au milieu, hein, voilà quoi.
Ouais.
Et si on pouvait danser sur les ruines des prisons, je crois que je serais la première avec l'équipe à y aller. À faire toutes les danses possibles.
Il est 19h29 sur Radio Galère. On ne l'avait pas encore dit, on le dit.
Voilà.
Mais je crois que Darmanin est en galère.
Comme chaque
semaine.
On le
mettra en galère, oui.
Il y avait les prisons et les matos au milieu.
Voilà, quoi. Mais de toute façon, quand on voit ce monde politique qui s'arrache la tête, ils ne savent même pas à quelle équipe ils sont. Alors, donc, ils sont bons pour faire la morale, mais ils ne sont pas bons. Enfin, voilà, quoi.
En tout cas... comme bah, lui, il finit sa lettre en disant qu'il aimerait bien être dehors pour lutter contre la prison, mais il n'est pas dehors. Nous, actuellement, on est dehors. Et donc, je pense que pour lui qui lutte dedans, c'est important de continuer à lutter et que toutes les personnes qui sont dehors ont ça à faire d'essayer de se mobiliser pour les personnes qui sont enfermées, quoi. C'est aussi, y a aussi un taf qui nous revient à nous de bouger, de pas oublier le privilège qu'on a de pouvoir... de pouvoir être libre de, comme il le dit, changer de taf, c'est plus que eux dedans qui n'ont pas le choix, et de ne pas les oublier et de leur envoyer grave de la force.
Ouais, force.
Grave.
En tout cas, toute la force qu'on peut leur donner, parce que dedans, après, on n'a plus le choix. Voilà quoi.
Et il y a un truc stylé qui s'est passé, dont on a parlé la semaine dernière, mais c'est très à propos, donc peut-être le redire. Il y a eu une grève dans la prison de Dozza à Bologne, parce qu'il y a une entreprise qui est dans la prison, qui fait des trucs d'emballage, je crois, qui s'appelle FID, Impresa in Dozza, et qui s'est mise en grève pour la Palestine. Donc c'est un bon exemple de... En Italie... Bravo l'équipe. Mais... trop stylé l'Italie.
Ah ouais, c'est grave chambé.
Ouais. Charmé.
Mais trop. Enfin, merci beaucoup pour cette lettre. C'était très stylé.
Et plein de force à vous.
Oui.
Force et courage, oui.
Peut-être qu'on répondra, peut-être qu'on en reparlera, parce qu'il y avait plein de choses à dire. On s'est pas étendu sur tout, mais ça fait un moment qu'on blablate avec nos avis perso. Mais la lettre s'y prêtait.
Ouais. Mais c'est bien qu'on ait des infos un peu partout. C'est bien.
Grave.
Ça peut nous donner des idées aussi. Marseillais, italien, corse. On va les choisir les pays bientôt. On arrive. Attention.
Et on voulait continuer l'émission avec des brèves. On peut parler des brèves sur le projet, notamment des QLCO, là, du coup, je redis, quartier de lutte contre la criminalité organisée. Pour l'instant, il en existe deux. Ces quartiers-là, dans les prisons de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil. Et récemment, il y en a trois autres qui ont été annoncés, à Réau, à Valence et à Aix-en-Provence. Et notamment celui d'Aix-en-Provence, c'est le seul QLCO qui n'est pas dans une maison centrale ou une prison avec un QMC, du coup, une tôle où il y a un quartier maison centrale. Et on se doute que si il y en a un à Aix-en-Provence, c'est peut-être en lien avec les assises. À côté, mais que le but du QLCO aussi, c'est de pousser les gens à bout et avec ces conditions ignobles et que les personnes acceptent de balancer avant leur procès pour pouvoir sortir de ces quartiers, parce que ça a été quand même annoncé comme la condition principale pour pouvoir sortir de ces quartiers.
C'est un peu un step, enfin, admettre qu'on peut être emprisonné, pas pour des faits qu'on a commis, mais qu'on peut avoir des régimes d'incarcération plus. En un sens, avoir des régimes d'incarcération plus stricts parce qu'on refuse de parler, ça c'est admettre à demi-mot que c'est de la torture, en fait. c'est des régimes plus stricts pour faire parler, quoi.
C'est chantage, à point. Voilà, quoi. C'est parce que tu parles pas, on va te mettre dans des prisons. Allez, c'est bon. Mais ils dénoncent quand même des ouvertures comme ça, de plante en comble, de 4, on va passer à 8, de 8, on va passer à combien bientôt? Voilà quoi, donc les conditions, ça va être difficile, surtout pour les familles.
Ouais,
comme je dis, les parloirs, quand on voit les parloirs, que c'est presque une cabine, hein. C'est une cabine enfermée. J'imagine pas la chaleur dedans, j'imagine... ça va être vraiment ok.
En tout cas,
pour ses courage à eux, parce qu'en plus quand ils sont transférés dans ces prisons là c'est dans la nuit, ils arrivent à 6h du matin et ils les transfèrent du jour au lendemain, hein. donc c'est sélectionné, ils disent celui-là, voilà quoi, hein. C'est au bon pouvoir, encore une fois, au bon pouvoir de la justice, et encore une solution que les avocats ne pourront pas intervenir s'ils ont décidé. Demain, lui, à 6h, il va être dans cette prison-là. Donc la famille mis sur le fait accompli, ne pouvoir pas agir, et surtout comment ressortir de ça. C'est parce qu'une fois qu'ils seront là, ils sont considérés comme les plus dangereux. Donc, c'est comment ils ressortent de là si c'est pas reconnu qu'il est si dangereux que ça. Parce que les plus dangereux, on sait qui c'est.
Moi, je voulais bien redire aussi qu'il y a eu des révoltes, notamment à Vendin. On en a déjà parlé dans les émissions précédentes de la courte échelle, que genre il y a eu des grèves de la faim, mais aussi des coursives inondées au mois de septembre. Pour l'inondation des coursives, il y a eu 3 coursives sur 4 qui ont été inondées. C'est genre 50 prisonniers de Vendin qui se sont révoltés pendant 3 nuits jusqu'à ce que l'administration pénitentiaire ait coupé l'eau. Et il y a grave eu de la
répression. Ils ont chargé aussi, ils ont pris des conseils de discipline assez stricts. Donc déjà, ils sont strictement enfermés, ils sont stricts, très surveillés, pris en garde. Et donc, j'imagine pas l'écudé de ces prisons-là, quoi. Donc, ça doit être quoi ? C'est une case, il ne bouge plus, le gars.
Bon. Après. En vrai, sur les conditions, je ne sais pas si...
Enfin, si, j'étais chaud de parler des conditions, ouais. Enfin, parce qu'en vrai, genre, la grève de la faim qu'il y a eu, enfin, genre... Ça a été 60 personnes, mais du coup, dans le communiqué qu'ils ont écrit... Ils disent en fait que leur lutte, c'est contre les conditions inhumaines que vivent les MIF, leurs MIF. Et je veux bien parler des conditions après que les prisonniers et les prisonnières vivent, mais que ces révoltes, ils les ont mis en place, 60 d'entre eux, parce que leurs MIF payent le prix fort. Ils ont écrit un texte collectif qui est notamment signé... cartel de Vendin-le-Vieil, super cartel, pardon, de Vendin-le-Vieil de façon très ironique. Et du coup, pour parler des conditions, dans les parloirs, c'est avec hygiaphone, c'est-à-dire qu'il y a une vitre et qu'en fait, qui empêche tout contact.
On est revenu à l'ancienne, en fait, avec le téléphone, même pas les trous, hein, c'est carrément avec le téléphone. Comme ça, ils ont accès à ce qu'ils se disent. Et il n'y a plus d'échange personnel ou intime, un peu, de se prendre dans les bras, tout simplement, hein, ça fait du bien, mais là, ils ne peuvent plus, quoi.
Et les appels tarpins limités, où tu, en fait, on a deux fois deux heures par semaine, un seul le week-end.
Alors déjà que même dans les prisons normales, déjà c'était deux promenades, on est passé à une. Donc bientôt on va passer à combien ? À 5 minutes de promenade ? On va être déjà, en général, on est enfermé 22 heures sur 24. Donc s'ils enlèvent une heure de promenade encore en plus, ainsi de suite, arrêtez de mettre et surpeupler les prisons pour des conneries, quoi. Déjà, ça serait déjà pas mal. Voilà, quoi. Il est plus dangereux.
Mais ouais, là, je parlais des appels par des promenades, mais les promenades, je crois qu'ils sont que par groupe de 5. Enfin, c'est vraiment genre...
Ah oui.
Des tout petits groupes.
Des petits groupes surveillés par 4 surveillants.
Ouais.
Donc après, ils sont en train de pleurer qu'ils sont en dessous d'effectifs. Mais déjà, vous en prenez 4 pour un pèlerin. Donc, vous avez si peur que ça ou quoi ?
Et un autre truc trop vénère, tarpin choquant, c'est que les MIF sont accueillis par des agents cagoulés pour leur faire peur.
Oui.
Non, mais de quoi on parle ?
Déjà, devant les baumettes, la dernière fois, on est allé distribuer des tracts. On a vu 3 cagoulés faire la marche du Mirador à la porte du parloir. Bon, à part marcher, faire les 100 pas et regarder le mur, parce qu'on va pas être trop con de faire des jetables s'il y a des cagoulés devant le mur, non ? Parce que, pour vous dire l'intelligence qu'ils ont, quoi. Mais en attendant, ces gens-là, ils sont payés pour rien foutre, et de temps en temps, ils vont boire un café, ressortent. En fait, ils surveillent le mur, au cas où qu'ils tombent, s'ils pouvaient tomber sur eux. On ne sait jamais. Ou si le mirador glisse, on ne sait jamais.
Mais c'est clair que c'est quelque chose de les voir dehors faire des tours.
Ouais, c'est pour les jetables, tout simplement. Mais les jetables, il y en aura toujours. De toute façon, même qui mettent ou qui renforcent ou quoi que ce soit, en attendant, c'est leur paix sociale. Donc, c'est les premiers à pleurer sur ça. Mais en attendant, s'il n'y avait pas tout ça, et bien, voilà, quoi, c'est leur paix sociale et il y en a beaucoup. Les surveillants pénitentiaires qui sont là-dedans et qui sont tranquilles et qui le font et que Il s'inquiète un peu, mais bien sûr qu'on dénonce, donc, vu qu'on nous fait chier. Donc.
Mais ce que j'allais dire, c'est que ouais, c'est une chose de les voir à l'extérieur, mais c'est un autre délire de rentrer pour aller faire un parloir et d'être escorté à l'intérieur par des matons cagoulés, comme tu disais. Ça crée vraiment une ambiance, quoi, j'imagine.
Bah ouais, j'imagine le choc des proches. Fin...
Moi, j'imagine plus la colère et la haine qui va monter encore abusé. Plus. Ouais. Voilà, ouais. Donc c'est trop.
C'est
après, ils vont dire oui, mais on est de plus en plus violents. Ils ressortent, c'est la prison qui les. Oui, c'est la prison qui nous rend des chiens enragés, tout simplement. Donc voilà, quoi. Après, bien sûr, quand tu ressors, que tu as été toujours sur tes gardes 22 heures sur 24 parce que tu as des abus de pouvoir sur des matons. Eh bien, automatiquement, quand tu sors, eh bien, alors là, quand tu as du monde, tu te méfies de tout le monde, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est eux qui poussent à la violence, c'est eux qui poussent à la haine, c'est eux qui poussent que le système, eh bien, il est tout à revoir, quoi. Donc, plus ils vont monter, plus ils vont enfermer, plus ils vont renforcer, plus il y aura de la haine, et plus il y aura du monde dans la rue, et plus ça sera une bataille navale.
Et...
Ouais, grave. Moi, je voulais bien. Non, tu me pardonnes.
Je sais pas si t'as. Enfin, moi, j'ai encore d'autres trucs sur les conditions d'incarcération,
ouais,
mais vas-y, fonce.
Parce que du coup, là, on parlait des conditions qui concernent les prisonniers et leur MIF. Mais il y a aussi les conditions qui concernent les prisonniers en mode genre, il y a zéro accès à des formations. Genre, le sport, c'est la seule activité. Les gamelles, elles sont dégueulasses. Il y a des plats périmés. Des catalogues de cantine où il y a air, presque rien. Ils ont même pas le droit de vider leur poubelle tous les jours comme dans les autres tôles. Enfin, genre, c'est quoi ça? Des blocages de virements, je lisais. Des fouilles après tout contact avec une personne extérieure.
Surtout que maintenant, ils ont pris sur les Baumettes et sur Arles, ils avaient décidé de faire des fouilles à 7h, 19h le soir. Si c'est pas pour faire chier le détenu, malade ou pas malade, tu te lèves, mais tu vois pas qu'il est malade, je sais pas. Inhumain.
Ouais, grave, inhumain.
Voilà quoi. Par contre, quand ce bâton est malade, il se met en arrêt de maladie rien que pour un nez qui coule quoi. Et il va se faire 15 jours d'arrêt de maladie. C'est pas un peu d'abus ça?
Si.
Mais voilà.
Puis il y a des chiffres aussi. Je lisais, il y a 89 prisonniers de ce que je lisais et 86 ont fait des recours pour des conditions indignes.
De quoi ?
Il y a 86 prisonniers sur 89 qui ont fait un recours pour des conditions indignes,
qui sont
à Vendin.
Ah ben oui, c'est indigne.
Ouais.
Et moi, j'ai appris aussi qu'à Arles, le week-end, il n'y a pas de US. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infirmiers ni... Le week-end, il n'y a pas des US. Donc, les gars, à Arles, ne tombez pas malade ou gravement malade le week-end parce que... Vous êtes coincés, les gars, hein, à part appeler les pompiers qui mettent 3 heures à venir. Donc après, on va dire que c'est suicide ou décès naturel. Ou...
Oui, de toute
façon. Non-assistance personnelle en danger, peut-être, pour moi.
Ouais.
Voilà, quoi.
Et d'autres trucs sur les conditions. Bah, bon, on a dit, donc, on peut parler avec Hygiaphone. En vrai, sur un article de Mediapart qui en parle un peu, il y a un témoignage d'une personne qui dit... Que par exemple, concrètement, pour imaginer ce que ça fait, soit tu parles dans le micro et du coup la personne t'entend en face, soit tu te décales et du coup t'es visible avec la vitre, mais tu peux pas vraiment parler et être visible en même temps. Du coup, évidemment, c'est horrible. Bon, en plus de ça, par rapport aux autres prisons, en général, dans les prisons longue peine, les conditions elles sont un peu mieux que dans les maisons d'arrêt. Par exemple, il y a les unités familiales où tu peux avoir un parloir un peu dans un cadre mieux avec tes proches, là ça n'existe pas. Oui, il y a ce qu'on disait tout à l'heure de l'éloignement des proches, parce que après ça va sans doute changer, mais jusqu'à maintenant il y avait que Vendin, donc ça veut dire que tous les prisonniers de France étaient à Vendin, donc ça veut dire que il y a des personnes qui étaient hyper loin, et donc les proches c'était hyper compliqué pour venir voir. Ensuite, il y avait ce que témoignait ce prisonnier sur Mediapart, il disait que ils ont deux fois 2 heures d'appel par semaine. Rien.
Au lieu de
24-24, et c'est assumé pour la de la part de l'administration pénitentiaire de dire que c'est pour pouvoir écouter absolument toutes les conversations. Donc sur les autres prisons, on a un peu un principe de panoptique, pour ainsi dire, où quand t'appelles, t'es toujours peut-être sur écoute, tu peux jamais savoir.
De toute façon, toutes les prisons, elles sont sur écoute, oui. Et quand ils y sont pas, ils sont enregistrés. Donc quoi qu'il en coûte, s'ils veulent revenir sur un appel ou avant machin ici et là, c'est encore une histoire de système qu'ils veulent mettre, de dire vous appellerez que à partir de là, point. Voilà. Mais tout ce qui est enregistré, toutes les conversations sont enregistrées et il n'y a pas toujours H24 un abruti de maton qui est derrière une table en train de regarder. C'est que si ce détenu il a des propos un peu chelous, on va voir comment il parle à la cabine. Donc il faut arrêter là, c'est pour encore plus serrer les conditions, tel jour, telle date, telle heure. Point.
Mais voilà. C'est sûr que des fois, dans les prisons normales, tu peux te dire.
T'as le doute, quoi. Tu
peux, dis, un petit doute, peut-être dire que là, c'est sûr que non. Et en plus, mais deux là... fois deux heures par semaine, c'est R.
C'est R. Et mais oui. Moi, j'aimerais voir le prix qu'ils prennent pour ces deux heures. Ça serait intéressant de savoir combien ils prennent pour ces deux heures de communication.
Ouais, c'est vrai.
Parce que quand on voit les prix des cabines dans toutes les prisons de France, je crois que c'est vraiment... J'aimerais bien savoir où va l'argent quand même, parce qu'avec toutes les thunes qui se font sur les cabines, multiplié sur tous les jeunes, que c'est des 300-400 euros, bah heureusement que les forfaits ne sont pas comme ça dehors, parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de clients. Hein. France Télécom ou Orange, prenez Free, je ne sais pas.
Et du coup, il y a aussi toutes les restrictions qui ne sont pas directement sur les conditions, mais sur la marge de manœuvre des prisonniers. Parce qu'en vrai, la vie en prison, elle est acceptable parce que les prisonniers, ils s'organisent pour braver les règles en faisant passer des trucs. Et qu'en vrai, les prisons le savent et que ça fait un petit peu partie du fonctionnement interne. C'est ce que disait tout à l'heure Vivi, ils laissent rentrer parce que c'est une question de paix sociale, de rapport de force. Et que dans ces prisons-là, ils ont mis beaucoup plus de matons et... beaucoup plus de moyens pour empêcher les choses de rentrer, et du coup ça fait que ça se devient encore plus intenable que dans n'importe quelle autre prison, quoi. Genre, par exemple, je lisais dans le même article qu'ils laissent pas de sac poubelle pour faire des yo-yo. Du coup, ça veut dire pas de yo-yo entre les vitres, entre les fenêtres des cellules. Ça, ils disent aussi qu'ils ont beaucoup plus de drones pour empêcher que les trucs passent. Il y a un espace de 50 mètres entre deux murs. Enfin, il y a un mur supplémentaire au bout de 50 mètres pour que ce soit plus gros la zone à franchir pour les livraisons par drone. Et il y a je sais plus comment il s'appelle, mais il y a une nouvelle technologie de fou furieux là, de portique à rayon X qui voit absolument tout. Si je retrouve son nom, je vous le dis. Mais
pour les prisonniers, les familles, les deux,
je crois que c'est pour les deux, ouais.
Ok.
Ouais. Moi, on va attendre la réaction quand les citoyens autour ils vont réagir sur tout ça, quand ça sera eux qui seront bloqués. Ils seront obligés de lâcher. Déjà, rien que les brouilleurs, ça gêne les alentours, mais pas les prisons, de toute façon. Voilà, quoi. Enfin, de toute façon, il y aura toujours ces conditions d'enfermement qui fait c'est plus empiré à pousser à la haine, moi je dis. Surtout qu'il va les prendre de plus en plus jeunes.
Et du coup, dans l'article de Mediapart dont j'ai parlé tout à l'heure, ils appellent ça un scanner corporel à ondes millimétriques. Du coup, un équipement qui permet de détecter des objets dissimulés sous les vêtements sans avoir recours à la fouille corporelle. Donc c'est pour les familles, les visiteurs.
Ah ouais. Ah, c'est effrayant.
Scanner corporel à ondes millimétriques, ça fait peur.
Hein. Ah, ça fait peur. Ouais. Ah, c'est
fou. Aïe, ce Darmanin.
Mais bon... Je sais pas si ce que tu avais prévu.
Peut-être qu'il pourra comme Sarkozy, un jour il se trouvera à la case du chemin de prison. Hein. On l'accompagnera peut-être dans une prison que nous on choisira peut-être. Ça serait intéressant.
Dans sa prison, oui.
Voilà quoi.
mais
ils finissent tous en justice à la fin de chaque mandat. Donc,
Intéressant de revenir un peu, je sais pas si tu comptais le faire, mais de revenir un petit peu sur le côté narcotrafiquant. Parce que. la même source précise que 80% des personnes qui sont dans cette prison là, donc ça c'était étaient en détention provisoire. Donc il y avait 89 détenus, et sur les 89, 80% qui étaient encore en attente de procès.
Ah ouais, ouais.
Et donc ça, c'était, bon, c'était une info qui date du 12 septembre. Mais c'est intéressant, parce que c'est le contraste entre les gros narcotrafiquants, donc on sait que c'est des méchants, et le fait qu'ils soient même pas encore, la justice n'a même pas encore reconnu qu'ils sont coupables.
Et normalement, on dit que si t'es pas jugé, que t'es pas reconnu coupable, t'es considéré comme innocent tant que t'as pas été jugé.
Les avocats.
Donc ça veut dire que déjà, ils les mettent dans ces prisons-là sans être jugés. Il est jugé déjà.
Les avocats de bourgeois de Sarkozy vous l'expliqueront bien. C'est scandaleux de condamner des personnes, de les enfermer alors qu'elles ne sont pas encore définitivement condamnées. Donc 80% dans les QLCO de détention provisoire.
C'est lunaire.
Et ce n'est pas que des personnes liées
au narcotrafic.
Par exemple, il y a Redouane Faïd. Redouane Faïd, de base, c'est un braqueur. La pénitentiaire le déteste parce qu'il a fait une évasion et que du coup ils ont la haine, mais tu le considères comme quelqu'un de dangereux, mais c'est pas quelqu'un qui est lié au trafic de drogue a priori. Et du coup, j'ai l'impression c'est vraiment un espèce d'épouvantail, cette notion de narcotrafic, pour désigner un ennemi contre lequel on va mettre énormément d'énergie à combattre. Alors que c'est une réalité qui existe sans doute en partie dans les faits, mais qui est aussi un peu fantasmée, et quand on regarde de près, ça colle pas parfaitement avec la réalité. Et ça, c'est assez propre d'une dynamique fasciste.
C'est ça.
Si je puis me permettre.
C'est une partie de vérité, et après ils transforment comme ils le veulent, quoi. Donc,
en vrai, légitimer de la torture et des régimes hyper violents envers des personnes parce qu'on fantasme une catégorie d'ennemis à combattre. C'est la définition. Enfin, voilà.
La définition, comment on dit
Du fascisme. De créer une menace, de fantasmer, de l'appeler narcotrafic, alors que ça veut un peu. Enfin, alors que c'est pas une notion juridique précise, c'est juste désigner un ennemi et décider de changer la loi pour pouvoir ne plus les traiter comme des humains avec une moindre dignité. C'est la rhétorique à l'œuvre du gouvernement actuellement, quoi.
Et surtout quand on voit les profils. Les profils de ces détenus. Voilà quoi. Au bon pouvoir de la justice.
Juste pour finir, c'est ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis du 41 bis. Un régime qui est pensé pour enfermer les mafieux, et au final, dedans, il y a plein de personnes qui s'y retrouvent. Par exemple, des militants d'extrême gauche. Peut-être qu'un jour, il y aura des militants. Peut-être que les personnes du 8-12 auraient pu s'y retrouver, par exemple. Parce que le glissement va finir par se faire des narcotrafiquants très dangereux vers à peu près n'importe qui contre qui la paix a la haine, en fait.
Mais grave. Trop grave. Ouais.
Ça vous dit, on parle de la grève de la faim d'Anan Yaesh.
Ouais.
Qui est du coup un prisonnier palestinien dont une lettre avait été lue à une émission de la Courte Échelle d'il y a quelques mois. Je ne sais plus quelle émission, je suis désolée. Et du coup, ce prisonnier est en grève de la faim depuis le 4 octobre, et on avait envie de vous relayer le communiqué du Comité pour la libération d'Anan Yaesh. Du coup, prisonnier palestinien incarcéré depuis le 29 janvier 2024 avec des accusations de terrorisme. Et par son incarcération, l'État italien affirme son soutien à l'entité sioniste et au projet colonial d'Israël. Je vais vous faire une lecture. Si vous avez envie de lire avec moi, c'est bienvenu. Le 1er avril, on relayait la parole d'Anan Yaesh. À ce moment-là, il était enfermé depuis plus d'un an dans la section de haute sécurité, AS2, de la prison de Terni au centre de l'Italie. Il a été arrêté en janvier 2024, sous demande de l'État israélien pour être extradé. Le samedi 4 octobre 2025, le prisonnier politique palestinien Anan Yaesh a entamé une grève de la faim. Cette décision s'inscrit dans le prolongement des manifestations pour la Palestine, qui ont balayé l'Italie depuis la grève générale lancée le 22 septembre. Et notamment la manifestation nationale à Rome, où plus d'un million de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le génocide du peuple palestinien et la collaboration et la complicité du gouvernement italien avec l'occupation sioniste. Par sa grève de la faim, Anan Yaesh entend également réaffirmer ses droits bafoués. récemment, en guise de sanction contre les manifestations de solidarité organisées devant la prison de Terni, il a été transféré à la prison de Melfi en Basilicate. Cette décision arbitraire et punitive a encore aggravé sa situation. L'éloignement du tribunal de L'Aquila, où se déroulent ses procès, et de Rome, où se trouvent ses avocats, compromet gravement son droit à la défense. Dans la nouvelle prison, les rencontres avec les avocats sont devenues de plus en plus difficiles et rares, rendant quasiment impossible tout accord sur une stratégie de défense. Ce transfert dépourvu de justification objective constitue une mesure de représailles contre la solidarité et une tentative d'isolement politique et humain.
La grève de la faim d'Anan Yaesh est un acte de résistance et de dignité, appelant à la mobilisation et à la vigilance de tous ceux et celles qui se soucient de la justice, de la liberté et des droits du peuple palestinien. Nous exigeons le respect des droits d'Anan Yaesh, la fin des mesures punitives et son transfert immédiat dans une prison garantissant le plein exercice de son droit à la défense. Nous réaffirmons également qu'un transfert n'entamera ni ne diminuera en rien la solidarité que le peuple italien a exprimée envers Anan ces deux dernières années. Nous précisons donc à l'intention de ceux qui sont à l'origine de ces décisions que, quel que soit le lieu où Anan sera transféré, il continuera de bénéficier d'un large soutien et d'une mobilisation en faveur de sa cause. Voilà. Bah,
en tout cas, force et courage, parce grave. Que bon, une grève de la faim.
Bah, il y a eu des libérations de prisonniers palestiniens récemment avec les démarches de cessez-le-feu. Bah, ce serait peut-être pertinent de libérer aussi les prisonniers palestiniens qui sont détenus par des pays occidentaux, peut-être.
Grave.
On a eu Georges Ibrahim Abdallah cet été.
Oui.
Peut-être.
Que ça continue, non?
Que ça continue, non? Il serait temps.
Continue, ouais.
En tout cas, merci aux personnes qui portent cette lutte en Italie. Grosse force.
Force et courage, en tout cas, à eux et qui n'hésitent pas à témoigner, à se faire savoir où ça en est, surtout parce que. Après, c'est les conditions médicales qui va se rajouter derrière. Que, voilà quoi. Que tout se passe bien en tout cas. Voilà, que ça se finisse bien. Et que, bon, ben, libérer quand même.
Ouais.
C'est bien d'enfermer, mais c'est bien de.
Libérer.
Libérer, s'il vous plaît. Y a des moments où on dit surpopulation. Là aussi, c'est pareil. Ils vont être surpeuplés, entassés. Comme des canards bientôt. Voilà quoi. Donc, à un moment donné, essayez de relâcher. Voilà.
L'émission dont on parlait, on a lu la lettre d'Anan Yaesh. La précédente, c'est le 11-05-2025.
C'est mai.
Mai. Le 11 mai 2025. Il y a quelques mois donc.
Et c'est possible d'envoyer du courrier à Anan si jamais ça vous intéresse. Il y a une adresse où lui écrire. Je la lis ?
Ouais, pourquoi pas ?
Alors, pour écrire à Anan, c'est Anan, A-N-A-N, Yaesh, Y-A-2-E-S-H, C/O, Casa, C-S-A, Circondariale. Bah, je vais tout épeler, je crois. Hein. C-I-R-C-O-N-D-A-R-I-A-L-E, D-I, Melfi, M-E-L-F-I. Du coup, c'est la prison où il se trouve actuellement. Et l'adresse, c'est Via Lecce, V-I-A, plus loin, L-E-2-C-E. Ensuite, 85 025. Et la ville, c'est Melfi, M-E-L-F-I, entre parenthèses, P-Z. Voilà.
On a beaucoup, beaucoup parlé d'Italie ce soir, et pourtant, on n'avait aucun italophone pour bien dire les choses. Mais c'était l'émission Italie.
Et on peut finir avec un pot agenda. Je ne sais pas si vous avez envie de dire d'autres choses.
Je sais pas.
T'as des dates
Ouais, il y a une date.
Bah, vas-y.
C'est dans le cycle qui se nomme Brisons l'isolement. Le premier événement, ce sera la projection d'un film sur les toits. Le réalisateur sera là, qui s'appelle Nicolas Drolk. Enfin, je ne sais pas si on prononce le C à la fin. Et du coup, c'est un film qui parle notamment des années 1971-1972, pour la première fois, où pour la première fois, des prisonniers ont déclenché des révoltes collectives et ont pris le contrôle de leur prison. Et du coup, le film, il dépoussière cette page méconnue de l'histoire, de lutte sociale, et en compagnie de ceux qui ont vécu, déclenché, réprimé, analysé et défendu ces révoltes. Et ce sera le 27 octobre à 18h30 au Massilia Vox, au 15 boulevard de la Liberté, dans le 1er arrondissement. Et c'est organisé par PNP, qui est un collectif marseillais. PNP fait référence à cette phrase pour ne pas rester seul face à la violence de la prison. Et du coup, c'est un collectif qui lutte contre la prison, contre la société qui en a besoin et qui crée des liens de solidarité avec les luttes des prisonniers, des prisonnières à l'intérieur, mais aussi avec leur famille à l'extérieur. C'est le collectif qui a écrit le guide à l'usage des proches de prisonniers et prisonnières des Baumettes. Et parce que même si les Baumettes le distribuent, c'est pas du tout les Baumettes qui a fait ce guide. Voilà. Et du coup, il y a aussi une permanence une fois par mois, c'est tous les premiers jeudis du mois, au local El Mamba, qui se situe au 8 rue Barbaroux, dans le 1er à Marseille. C'est tous les mois de 17h30 à 19h30.
Et peut-être pour faire le lien avec notre émission très structurée, il est possible que le cycle Brisons l'isolement aboutisse à une mobilisation un peu large contre potentiellement l'ouverture des Baumettes 3, où on vous tiendra au courant large. Et aussi, je pense que l'ouverture d'un QLCO à Aix et des QLCO en général sera sans doute à l'ordre du jour dans des mobilisations à venir. Donc ne quittez pas la courte échelle, suivez tous les dimanches, vous aurez toutes les infos de la campagne anticarcérale
en
approche.
Parce que c'est que le début du cycle, en fait.
Et vous pouvez écrire, on pourra passer les articles si besoin, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Vous pouvez écrire à la radio, toujours François Simon, la friche de la Belle de Mai, 13 3 Marseille, à la radio Galère, la courte échelle. Voilà, on se fera un malin plaisir de le lire. Tous les abus des pénitentiaires, évidemment.
On se laisse sur ça?
Ouais.
Non, grosse force à
déjà,
tous.
Déjà, voilà, force et courage aux Baumettes, aux filles que je connais de Vivi et de toute l'équipe. À Arles aussi, également, à Karim, la femme, et les petits canotons, voilà. Grosse pensée, big up.
Force à vous.
À très vite à la cabine, voilà. Et force et courage à eux. Et
force aux proches aussi.
Et également à toutes les filles des Baumettes, de la MAF, tous ceux qui me connaissent, force et courage, n'hésitez pas à écrire.
Mais aussi à toutes les
prisonnières. À Parleurs Libres et à la courte échelle également. Voilà, on est là pour vous également.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Moi, je vous dis à samedi prochain. Allez, big up.
Et on va passer bando de Anna et Jules.
Allez, bonne écoute. Et oui,
et voilà,
mettre
le direct.
À la rentrée, elle est dure. Là, elle est la petite Charlie, voyons. Mais le son. Svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bendo sopra il booster, hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Infami tornano in fila, ho detto alla mamma che mo vado a Milan. Te non dare opinioni se vesti fila, giuro che sei un bambino, non sei 2000. Vorrei avessi la fame e la mia per capire le cose. Divido l'acqua e mose, vi vedo un po' mosse, situazioni e cose. Dico cosa le faccio, no, non parlo e basta. Tu non ne so, fa meglio smetti col rap, oppure talent giuro fanno per te, per fare sti band mi divido in tre. Le sono un minuto, cazzo ho fatto fra te. Fate gli zanzo e poi passa la stessa e piangete. Meglio vi sedete col pallone in rete. Non rappi di nulla, zia proprio di niente. Se chiedo in giro non dico
capisco che sei demente. Vendo sopra il booster, hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster, hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ci chiamiamo nel vendo sopra il booster, hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster, hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel.
Dove piace la ganga? Come una se lo pendo? La russe pa' Nintendo? Sa te da surango? Dove piace in la ganga? Come una se lo pendo? La russe pa' Nintendo? Sa te da surango? Come in Italia, dans la sogna de boxeur, come medaglie. Qui font du chiffre comme le cartel Gali. Ma jolie, je conduisais depuis, oui, je savais pas lire. Des Max, Porsche, Targa. Faut toujours un petit couteau sous la parka. Parce que, y'a des tarpas. Dans le 13 saison, nos quartiers sous pare-balles. Pare-balles, aïe, je suis sous canage, plane la aïe. T'inquiète, chaussettes sur bête banane, aïe. GS, RS, business, aïe. Ça veut Hublot de ma Rolex, aïe.
Ya, ya, la vie, ya, ya.
J'suis sur le scooter, coupe militaire. J'fume la moula, moula, je m'y perds. Que j'arrive en gris, la voiture elle fait du bruit. Ils font les gantés, ils font les gros, ils ont pas un gris. Piu, 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 impact sur le pare-brise. Brem, 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 j'accélère quand j'en gris. Ça dévêche un S, t'aurais pas une sur la veste, hein. J'reste modeste, hein. Ce qui m'arrive, c'est le test, hein. Qui veut test, hein. J'vais m'en faire un fest, hein. J'repasse aux traites quand je passe sur la gymnaste, hein.
Vendo sopra le booster, hanno fatture, non, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo sopra il booster, hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel.